Son esprit agit. Il a commencé à agir il y a 2000 ans, puis il agit sans cesse. Même des fois, si on ne se rend pas compte de ce qui se fait, on le réalise un peu plus tard, il y a de quoi qui s'est passé, mais on ne savait pas ce qui se passait, mais ça s'est fait. Il y a plein de promesses dans sa parole qu'on n'a même pas besoin de penser, puis il est fait. Parce qu'il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Fait qu'on peut rendre gloire au Seigneur de ce qu'il est en train d'agir au milieu de nous. Puis il faut le prendre par la foi. Il est en train d'agir. Chaque fois qu'on vient dans une réunion, dans le temps de louange, son esprit est là, puis il libère nos chaînes. Il est plus, il nous émonde, il nous transforme, il nous fortifie. Puis quand on sort d'ici, on pète le feu, on est rempli de l'esprit, puis on est dans la joie du Seigneur. Tiens, amen avec ça. Puis merci Seigneur, parce que c'est vrai, hein? C'est pas des farces. Puis il y en a plusieurs qui le vivent parmi vous, puis je suis content de ça. Puis je crois que ça c'est la grâce pour tout le monde de pouvoir réaliser que le Saint-Esprit y agit. Alléluia. C'est pas juste une doctrine, c'est pas juste une théorie, le Saint-Esprit. Il est vivant, c'est le Consolateur, l'Esprit de vérité que le Père nous a envoyé dans le nom de Jésus. C'est lui qui fait l'œuvre. Alléluia. C'est son Église, c'est lui qui est en train d'agir, puis qui veut nous rendre, qu'on y aille encore plus loin avec lui. Jusqu'à où est-ce qu'il veut nous rendre? Pour être exactement comme Jésus. Il n'y avait pas un autre qui était plus rempli du Saint-Esprit que Jésus lui-même. Il n'y a pas un autre qui pouvait vivre des œuvres plus grandes que ce que Jésus lui-même a vécu. Il était dans la plénitude du Saint-Esprit. Il était Dieu. Toute la plénitude de Dieu habitait en lui. Fait que, jusqu'à où est-ce que le Seigneur veut nous emmener? Jusqu'à où que le Saint-Esprit veut nous emmener? Il veut nous amener à être à l'image de Jésus, à la stature de Christ. Et je remercie le Seigneur de ce qu'il agit au milieu de nous. Mais des fois, on entend des messages qui, ça a de la misère à passer, mais le Seigneur, il sert de ça. C'est comme quelqu'un qui veut se faire un hamburger, il prend un morceau de viande, puis il pose dans le moulin à viande. Puis là, ça sort, tout coupé en petits morceaux, puis tout haché. Là, tu fais une boulette avec ça, puis tu fais de la viande, un hamburger. Mais le Seigneur veut nous rendre, c'est lui qui nous émonde, c'est lui qui nous change, c'est lui qui nous transforme, puis il sert de sa parole pour nous renouveler dans notre intelligence, pour faire débarquer tous nos faux raisonnements, faire débarquer toutes nos attentes qui sont pas de lui, puis nous mettre les siennes, ses attentes, parce que c'est lui qui va faire l'œuvre, c'est lui qui va nous rendre comme lui. Il sait par où ce qu'on doit passer pour l'obtenir. Des fois, ça fait mal qu'est-ce qu'on passe, mais c'est le fruit au bout qu'il faut garder. C'est un fruit qui plaît à Dieu. On rentre dans un état d'une bonne odeur à l'Éternel. Le premier passage qu'on va aller voir ce soir, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 15, les versets 1 à 8. L'apôtre Paul est en train de parler à l'église de Corinthe. C'est une église où les dons étaient en abondance. Les dons spirituels, il n'en manquait aucun. Il y a une église qui était prospère. Il y avait beaucoup de chrétiens dans cette église-là. Par contre, d'un autre côté, il y avait des choses qui étaient comme un petit peu en désordre puis que l'apôtre Paul voulait ramener. Mais le point que l'apôtre Paul va servir, nous autres, on va s'en servir, mais pour garder autre chose. Au verset 1, ça nous dit, dans 1 Corinthiens 15, « Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12, ensuite est apparu à plus de 500 frères à la fois, et dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. » On s'arrête là. Paul, il avait un besoin pressant, à ce moment-là, d'écrire dans sa lettre ce message-là, pour leur rappeler aux Corinthiens le message de l'Évangile qui avait été prêché par Paul quand il était rentré dans cette ville. Parce que des gens dans cette église-là, bien qu'ils vivaient de l'abondance spirituelle, les dons étaient là, puis l'église avait une croissance, il y a des gens qui s'étaient détournés de l'Évangile. Puis le point dans lequel il s'était détourné, c'est que là, Paul, il a fallu qu'il le démontre, puis lui rappelle que Jésus, il est venu, Jésus, il est mort sur la croix, mais il est ressuscité le troisième jour, puis il est apparu à plusieurs des apôtres. Pendant plusieurs jours, il est apparu à Pierre, il est apparu aux 12 apôtres, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, puis après ça, il a fini par apparaître à Paul. Est-ce qu'il y a des gens en Corinthe qui commençaient à dire qu'il n'avait pas de résurrection? Puis, à quelque part, je crois qu'il est important qu'on revienne aux sources de l'Évangile. L'Évangile, c'est qu'est-ce qui nous a été écrit dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, la bonne nouvelle. Des fois, il faut revenir aux sources parce que, veut, veut pas, même si on a une vie d'abondance, même si on est dans la joie ou même si on a des problèmes, peu importe, il vient un temps où ce qu'on peut commencer à s'écarter des points d'enseignement de l'Évangile. Ça, ça peut faire, comme l'apôtre dit, il dit, c'est cet Évangile-là par lequel vous pouvez être sauvé, mais il faut que vous le reteniez tel que je vous l'ai annoncé, sinon, vous aurez cru en vain. Ça se peut-tu qu'à quelque part, il y a des églises qui peuvent commencer à croire en vain, à espérer des choses en vain? Pourquoi qu'ils espéraient ou pourquoi qu'ils croiraient en vain? Parce que tranquillement, ils se sont égarés de qu'est-ce que l'Évangile disait. Ils ont commencé à s'attendre des choses qui n'étaient pas écrites dans l'Évangile, puis ils ont commencé à croire des choses qui n'étaient pas écrites dans l'Évangile, puis ils étaient en train de croire en vain. Là, ce soir, c'est sûr qu'on va voir un point en particulier. On ne parlera pas de la résurrection du Seigneur, parce que je ne crois pas qu'il y en a qui s'égarent. Je ne crois pas qu'il y a des gens ici qui ne croient pas que Jésus est ressuscité. Je pense que tout le monde le croit. Ce ne sera pas le point qu'on va parler. Mais à quelque part dans cette église-là, l'église de Corinthe, il y a des gens qui avaient commencé à prêcher du mensonge. Ça s'est infiltré, puis il y a des gens qui bâtissaient leur foi là-dessus, puis Paul lui dit, « Là, vous êtes mieux de revenir à l'Évangile que j'ai annoncé, parce que là, vous faites fausse route. » Dans 1 Corinthiens 15, le même chapitre, mais au verset 14, puis là, il leur dit, « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, puis votre foi aussi est vaine. » Pourquoi? Parce que toute la base de notre vie chrétienne est basée sur le fait que Jésus est ressuscité. Jésus est assis dans la droite de Dieu. Jésus est présent au milieu de son Église. Puis si on passe à côté de ça, on passe à côté de ce que Dieu peut faire dans nos vies. Parce que c'est le Saint-Esprit à travers le nom de Jésus, le nom de ce ressuscité-là, qui fait les œuvres au milieu de nous. Il est important de revenir à la source, à l'Évangile qu'on a reçu. Mais c'est quoi ça, l'Évangile? L'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Ça nous a été premièrement adressé à travers le passage qu'on va lire, ça va nous parler de ça. Luc 4, le verset 14 à 21. L'Évangile, ça a commencé quand Jésus a commencé son ministère. L'Évangile, c'est pas juste quand Jésus est ressuscité. La bonne nouvelle, le mot évangile veut dire bonne nouvelle, ça a commencé quand Jésus a commencé son ministère. Pourquoi? Parce que Jésus, il était annoncé d'avance qu'il viendrait. C'est une promesse, c'est une prophétie que Dieu a dit, je vais envoyer mon Fils, puis il va venir au milieu de vous, puis il va commencer une œuvre de libération, une œuvre de délivrance, une œuvre de transformation. La bonne nouvelle, c'est ça la bonne nouvelle, que le Saint-Esprit viendrait visiter son peuple, Dieu lui-même viendrait visiter son peuple, pour commencer une œuvre de liberté, une œuvre de délivrance, une œuvre de restauration. Puis c'est ça qui est la bonne nouvelle. C'est sûr que la bonne nouvelle, Jésus l'a accompli, il a mis le sceau en ressuscitant entre les morts, mais ça a commencé pas à sa délivrance, ça a commencé au commencement de son ministère. Dans Luc au chapitre 4, les versets 14 à 21, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Il venait juste de sortir du désert de tentation, où il a été tenté par le diable, puis en sortant, ça nous dit, revêtu de la puissance de l'Esprit, il retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, il était glorifié par tous. Il se rendait à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. C'est là que ça commence. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Le mot « bonne nouvelle », c'est ici le mot « évangile ». Jésus a été oint pour annoncer l'évangile aux pauvres. C'est là que ça a commencé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Puis tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Gloire au Seigneur. L'Évangile, la bonne nouvelle, a commencé à ce moment-là, dans l'accomplissement de la promesse qui était écrite dans l'Ancien Testament par la main de Joël, je crois. Isaïe. C'est que l'onction du Saint-Esprit, cette promesse-là que tout le monde attendait, puis tout le monde l'attendait, les Juifs, cette promesse-là, mais ils l'ont pas reconnu nécessairement Jésus, mais ça a commencé là. L'onction prophétisée par Dieu, que l'onction viendrait couler sur la terre pour faire une œuvre de délivrance, de guérison, de restauration parmi toutes les gens qui seraient autres, qui entendraient parler du message. Ce que le Saint-Esprit a fait à travers de Jésus, on va eux s'éplucher les points au verset 18. Jésus lui-même a déclaré, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Jésus avait reçu une puissance pour commencer à prêcher que le salut est en lui. Le Saint-Esprit, quand il a oint Jésus, il l'a oint pour annoncer l'Évangile, pour ouvrir la porte à l'Évangile, pour commencer à dire « Le royaume de Dieu est descendu vers vous », pour l'annoncer pas juste aux riches, aux pauvres aussi, que tous ceux qui n'ont pas d'argent pour acquérir les promesses de Dieu ou acquérir des postes haut placés dans le temple ou quoi que ce soit, ils pouvaient recevoir la bénédiction de Dieu. Puis cette l'onction du Seigneur était pour ces gens-là, puis je pense qu'elle était aussi pour chacun de nous aujourd'hui. Jésus continue, « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Ça nous parle des guérisons intérieures que le Seigneur veut faire. Le cœur brisé, c'est à l'intérieur. Dieu se soucie de nous voir qu'on est en train de souffrir intérieurement, qu'on a des angoisses, qu'on a des tourments, qu'on a des fardeaux, qu'on a des inquiétudes, qu'on a des choses qui nous pèsent dans notre vie, qu'on a de la culpabilité, qu'on a des souffrances qu'on a vécues, qu'on traîne depuis notre jeunesse, qu'on a de la gêne, qu'on a de la honte, peu importe ce qu'on vit intérieurement, Dieu, il a oint Jésus pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il veut faire un œuvre à l'intérieur de nous. Le Saint-Esprit aussi, il dit que Jésus avait été oint pour proclamer aux captifs la délivrance. Dans ce passage-là, ça nous parle comme captifs, c'est ceux qui sont nés comme à la pointe d'une épée ou à la pointe d'une lance. C'est ceux qui avaient été pris, capturés, et qui étaient rendus captifs comme en prison. Ça nous parle que les gens qui sont liés par les présences des ténèbres, qui sont liés dans le monde des ténèbres, qui sont captifs du monde des ténèbres. Jésus est venu pour délivrer ces gens-là qui sont esclaves du monde des ténèbres. Il est venu pour briser les chaînes, les liens, puis que ces gens-là puissent être rendus libres. Il veut proclamer aux captifs la délivrance. Jésus veut pas que les gens restent captifs sous les griffes de l'ennemi. Il veut qu'ils changent de royaume, qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Puis Jésus a été oint pour ça. Jésus a été oint aussi pour que les aveugles recouvrent la vue. Ça nous parle des guérisons physiques, les guérisons externes de notre corps. Tout à l'heure, on a parlé de guérison intérieure, mais Jésus veut aussi guérir notre corps. Les aveugles qui recouvrent la vue, c'est pas juste dans le sens spirituel qu'il veut qu'on comprenne la parole. Non, Jésus a vraiment manifesté les œuvres qu'il a guéri des aveugles, il a guéri des sots, il a fait marcher des boiteux, il a ressuscité les morts. Jésus veut atteindre les parties de notre vie corporelle pour les guérir. Puis l'onction du Saint-Esprit était donnée sur Jésus pour ce ministère-là. Jésus est envoyé pour rendre libres les opprimés. Ça, dans ce sens-là, ça parle de ceux qui sont comme sous une oppression, qui sont meurtris par la vie, qui ont la vie brisée, qui sont liés ou qui sont oppressés. Jésus est venu pour ceux qui ont de la misère dans leur vie, ceux qui souffrent, ceux qui ont des problèmes de toutes sortes. Il est venu pour envoyer libres ces gens-là. Le Seigneur est capable de nous prendre, peu importe notre situation, puis nous sortir de notre situation pour qu'on ait la vie, qu'on soit dans l'abondance, qu'on soit dans la joie, qu'on soit dans la paix, qu'on soit restauré, qu'on soit rafraîchi, qu'on soit béni en sa présence. C'est ça que Jésus était oint pour faire. Puis si on regarde souvent dans des passages de la parole, la joie était là autour de ceux qui voyaient la main de Dieu agir, puis la guérison agir, puis les paroles de grâce sortaient, puis tout le monde t'a dans la joie, tout le monde t'a béni de voir la main du Saint-Esprit agir à travers Jésus. Alléluia. Puis Jésus aussi a été oint pour publier une année de grâce du Seigneur. Ça, c'est pour amener comme un espoir aux gens qui étaient sans espoir. Parce que c'était pas facile pour les pauvres. La bonne nouvelle est annoncée premièrement aux pauvres. C'était pas facile pour les gens pauvres. Ils ne pouvaient pas rien avoir. C'est comme un peu comme les gens du Mexique aujourd'hui. Ils travaillent toute une journée de temps pour gagner juste à peine la nourriture et s'acheter une poignée de bines pour manger des bines dans leur journée. Ils travaillent à 75 cents de l'heure, puis la nourriture coûte le même prix qu'ici. Puis c'est un peu le même contexte qu'il y avait dans ces temps-là. Les gens travaillaient pour un denier par jour, puis c'était juste la nourriture suffisante pour leur journée. Puis il fallait qu'ils travaillent 6 jours par semaine. Puis les gens, ils travaillaient dur. Ils bêchaient la terre. Puis c'est sûr qu'il y a des endroits qui étaient fertiles, mais des endroits qui n'étaient pas fertiles. Puis le soleil du jour qui plombait, puis tout ce qu'il y en a de souffrance au niveau du travail, au niveau de la pauvreté, au niveau de leur manque de joie dans cette vie, là, à cause des biens terrestres ou à cause des circonstances qu'ils vivent. Mais Jésus est venu aussi pour rencontrer ces gens-là, puis leur donner un espoir pour publier une année de grâce du Seigneur. Parce que le Seigneur avait des projets pour son peuple, tous ceux qui se tournent vers lui, des projets où ce que les bénédictions couleraient dans leur vie, des exaucements de prières, que la main du Seigneur soit sur eux, que tout le monde sera béni. Et jusqu'à maintenant, on peut dire qu'on a reçu des bénédictions du Seigneur, puis on va en recevoir encore. Puis on fait partie des années de grâce du Seigneur. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, que comme dans le film de Robinson Crusoe, il dit l'an de grâce 1937, mettons. On est dans les années de grâce. La grâce a commencé quand Jésus est venu sur la terre, puis on est à l'an de grâce 2001 après Jésus. La grâce a continué jusqu'à temps que Jésus revienne, puis la porte de la grâce va être fermée. Mais on est encore dans les années de grâce du Seigneur, puis il faut rendre grâce à Dieu d'être né dans ce contexte-là, puis d'avoir compris son message. Alléluia. Mais c'est ça qui est la bonne nouvelle. C'est ça qui est le mot, l'Évangile. L'apôtre Paul, quand il dit, « Je vous rappelle à revenir à l'Évangile que je vous ai annoncé. » Parce qu'il y en a qui s'égaraient. Il dit, « Si vous vous égarez, vous allez avoir cru en vain. » Bien, l'Évangile, ça commence par ça. Les paroles qui ont été lues par Jésus dans le parchemin, dans le temple, ont-ils eu leur accomplissement? Quand il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour ça, ça a-tu eu son accomplissement? » Quand on lit l'histoire de l'Évangile, tout ce qui s'est passé par après, on a vu que l'onction du Saint-Esprit, elle agissait pleinement. Les gens ont été guéris, les gens ont été délivrés, des lépreux ont été purifiés, les morts ont été ressuscités, la joie est assumée tout partout. C'est sûr qu'il y en a qui n'ont pas reçu ça parce qu'ils n'avaient pas la foi. Mais tous ceux qui avaient la foi ont reçu de la part du Seigneur. Dans Actes 10, 38, ça nous dit, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. » Alléluia! Dieu était avec Jésus. Il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Quand on parle que le Saint-Esprit est là, c'est que Dieu était avec lui, puis la main du Seigneur se manifestait. Des signes, des prodiges et des miracles. Les gens recevaient comme ça avait été annoncé. Jésus a aussi dit qu'il envoyait ses disciples à faire la même job. Dans Matthieu 10, le verset 1, il dit, « Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. » Dans le même chapitre, le verset 7 et 8, il leur dit encore à ses disciples, « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » L'Évangile a continué dans le temps de Jésus, à travers les mains des apôtres. La puissance de Dieu se manifestait, puis les guérisons, les délivrances s'opéraient par la main de Dieu. Même après sa mort, puis sa résurrection, Jésus continuait de manifester sa gloire. Dans Marc, le chapitre 16, le verset 20, ça nous dit, « Et ils s'en allèrent prêcher partout, puis le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Alléluia! L'Évangile a continué même quand Jésus était mort et ressuscité. parce qu'il est encore là, présent dans son Église, puis il manifeste encore sa présence en opérant des signes, des prodiges et des miracles encore en son nom. Alléluia. Jésus nous a promis d'être avec chacun de nous. Quand il nous dit dans Matthieu 28, 20, « Et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il est là. Il veut continuer son œuvre, l'œuvre de la bonne nouvelle. Il veut la continuer au milieu de nous. Il dit, il est avec moi tous les jours, mais il est aussi avec Sylvain, avec, là, je vous nomme tous. Il est avec, je ne peux pas vous nommer tous, mais il est avec chacun de vous. Il est là, présent autour de vous, puis il veut continuer l'œuvre de l'Évangile encore aujourd'hui. Il veut continuer à nous restaurer par son esprit. Il veut continuer à nous délivrer. Il veut continuer à nous guérir. Puis il veut continuer à nous fortifier. Il veut continuer à nous donner une espérance. Alléluia, merci Seigneur. Mais comment que ça se fait qu'il y a des gens qui marchent encore comme si Jésus n'est pas ressuscité? Comment que ça se fait qu'il y a des gens qui marchent encore comme si Jésus ne serait pas là? On marche dans notre journée, puis on l'oublie. Puis là, on cesse de recevoir sa grâce qui nous fortifie, qui nous renouvelle, qui nous remplit, qui nous bénit. Quand que Paul a parlé aux Corinthiens, à ceux qui ne croyaient pas à la résurrection du Seigneur, je vous répète sans cause ce verset-là, il dit, « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. » Mais si on est chrétien et on ne crée pas bien que Jésus est avec moi aujourd'hui, on ne crée pas qu'il est ressuscité, ma foi est vaine. J'ai foi en quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Il n'y a rien qui bouge. Là, on va commencer à soutenir les autres que c'est pas vrai, la vie chrétienne, ça n'existe pas. Pourtant, il y a plein de monde qui le vit. C'est pour nous autres encore aujourd'hui, Jésus a dit à chacun de nous autres, « Je suis avec vous. » Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Puis il veut continuer son œuvre, l'œuvre de la bonne nouvelle dans vos vies. Il y en a qui marchent comme si leur foi était vaine. Ça ne servait à rien d'être chrétien. Ça peut nous arriver d'avoir ces pensées-là, il faut se l'avouer. On voit que ça ne marche pas, que ça avance à rien. Il vient du découragement dans notre vie, de l'abattement. On vient sans force, on est écrasé par les événements de la vie. Quand on vient à l'Église, on est rempli du Saint-Esprit, on touche même pas à terre. On revient à la prochaine réunion, on s'en vient en rampant, puis on est tout démoli, déchiré, puis écrasé. Puis là, on rentre dans la louange, tout défaite, puis là, on commence à recevoir le rafraîchissement, la bénédiction de Dieu, elle commence à nous relever. Là, on porte pas à terre encore, puis on sort dans cette condition-là. On revient à la prochaine réunion, on est encore en train de ramper à terre, écrasé. En larmes, sous le fardeau, puis des accusations, puis des tourments. Puis même, ils peuvent se dire, peut-on s'attendre à ce que Dieu fasse de quoi dans ma vie? Je peux-tu m'attendre à ce que Dieu fasse de quoi dans ma vie? Amen! Alléluia! Être sauvé, là, c'est pas juste avoir notre nom inscrit dans les cieux. Le mot « sauvé », là, c'est un sens plus large que juste le salut de la vie éternelle, là. Sauvé, c'est aussi guéri. On est sauvé de la mort, c'est vrai, mais on est sauvé de nos maladies, ils nous en arrachent. On est sauvé de la pauvreté, ils nous pourvoient nos besoins. On est sauvé de nos tristesses, de nos problèmes, de nos tourments, parce qu'il les prend et il les enlève. Jésus nous a sauvés. Puis il veut continuer à nous sauver. Il veut pas qu'on reste dans un état écrasé, en train de ramper. Il veut qu'on soit relevé, fortifié, puis qu'on marche dans son onction. La réalité est que Christ est ressuscité, puis qu'il agit encore aujourd'hui dans nos vies. Puis ça, faut rentrer dans cette réalité-là. C'est vrai qu'il agit dans l'Église. Mais quand on sort d'Église, faut pas l'oublier. Faut pas marcher comme si Christ n'est pas ressuscité. Parce que là, ta foi, quand elle tombe à zéro, il ne faut pas marcher comme si Jésus ne serait pas avec nous autres. Notre foi tombe à zéro, puis notre morale, puis notre conduite, puis notre caractère, puis nos actions tombent à zéro. On revient tout démoli. Jésus, ce soir, il va encore stimuler notre foi pour qu'on regarde à lui. Puis je veux remercier le Seigneur de nous donner cette grâce-là. Je vais vous parler d'un dernier passage. Puis ça va comme mettre un punch, un saut à qu'est-ce qu'il dit là. Parce que je crois que le Seigneur veut faire une œuvre au milieu de nous. Chaque fois que vous avancez en avant, vous pouvez prier pour vous. Le Seigneur, il rajoute de quoi dans votre vie. Puis il enlève des choses dans votre vie. Il sert de la prédication de la parole, mais il sert aussi de l'onction du Saint-Esprit. Parce que c'est l'onction qui était sur Jésus, qui guérissait les malades, puis qui délivrait les personnes. Puis il veut continuer cette œuvre-là au milieu de nous. Attendez-vous de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Ça fait partie tout de votre héritage spirituel que Jésus vous a déjà donné. Vous pouvez ce soir recevoir des temps de rafraîchissement de la part du Seigneur. Dans Jean chapitre 11, les versets 20 à 27, c'est l'histoire de Lazare. Jésus apprend que son ami Lazare était malade. Jésus était quand même assez loin de cet endroit-là. Il a fini de faire ce qu'il avait à faire. Puis après ça, il dit à ses disciples, allons, on va aller voir Lazare. Mais là, il savait que Lazare était mort. Puis il dit, on va y aller, puis on va le réveiller. Là, les disciples, ils comprenaient pas bien, mais ils ont décidé d'y aller avec lui. Puis, quand Jésus est arrivé dans le coin où il était Lazare avait deux sœurs, Marthe et Marie. Jésus il aimait Marthe et Marie parce que c'était des gens qui étaient disciples de Jésus, puis qui croyaient en Jésus, puis qui avaient déjà vu la main de Jésus dans leur vie. Mais là, il s'apprêtait à faire une œuvre extraordinaire. Mais c'est qu'est-ce qu'il va dire à Marthe qu'on va s'arrêter ce soir? Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, là, Lazare était déjà mort, ça faisait 4 jours qu'il était mort, qu'il était déjà enterré dans son tombeau. Mais là, elle savait que Jésus s'en venait. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, répondit Marc, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même qu'il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Il lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Marie croyait en Jésus que c'était le Sauveur, puis elle venait de recevoir une promesse de Jésus. Elle l'avait aimé. C'était à elle, cette promesse-là. C'est quoi la promesse? Ton frère ressuscitera. Mais elle ne comprenait pas. Je sais qu'il va ressusciter à la fin. Jésus voulait dire maintenant. Mais elle a détourné ça parce qu'elle ne voulait pas saisir que ce sera maintenant. C'est plus facile à croire que ça va être à la fin qu'il va ressusciter. C'est vrai que c'est plus facile à croire. C'est vrai qu'on va ressusciter à la fin. Il venait de dire, ton frère ressuscitera. Puis Jésus s'attendait à ce que Marthe saisisse cette promesse-là. Seigneur, je le crois que tu vas le ressusciter, puis fais-le maintenant. Alléluia, puis merci Seigneur de la résurrection qui s'en vient. Mais elle a pris le chemin plus facile. Oh, il va ressusciter à la fin. Juste un petit peu plus loin, au verset 39 à 44, Jésus dit, ôtez la pierre. Il est en train de le faire, là, qu'est-ce qu'il vient de promettre. Marie, elle s'en vient à côté. Non, c'est pas Marie, c'est Marthe. Elle s'en vient à côté de Jésus. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà quand il y a 4 jours qu'il est là. Suite, elle commence à mettre de l'opposition à ce que la prière soit exaucée. On se reconnaît-tu à quelque part là-dedans? Jésus lui dit, il répète encore, il veut pas écouter ses faux raisonnements, il dit encore, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus savait qu'il voulait le ressusciter. Quand il est parti de là, 4 jours avant, il dit, je m'en vais le réveiller. Il est arrivé à côté de Marthe, ton frère va ressusciter. Mais elle n'a pas saisi la promesse. Elle arrive même quand il est venu ôter la pierre, il était prêt à le faire. Là, elle a commencé encore à mettre de l'opposition pour l'empêcher de le faire. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il t'a même pas encore sorti du tombeau, puis il dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Ça, c'est des paroles de foi. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. On est placé à côté de Marie. On est comme Marthe, placé à côté de Jésus. Qu'est-ce qu'on va faire, là? On entend la promesse. On va-tu commencer à dire, Seigneur, oui, amen, fallait, je le demande, que tu, je le réclame, je le veux, je le sais que c'est pour moi, puis je te remercie de ce que tu m'as exaucé. Ou on va commencer à mettre des empêchements. Puis dire, non, je sais que ça va être à la fin des temps. Puis non, Seigneur, il sent, rouvre pas ça, ça donne rien. Là, je m'adresse à chacun de nous autres. Le message de l'Évangile, qui est un message de la bonne nouvelle, là, de guérison, de délivrance, de vie renouvelée, d'avoir une espérance d'une année de grâce. L'Évangile, elle nous a été adressé. Puis je répète le premier verset que je vous ai lu. Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé. Puis c'est ça, l'Évangile. Que vous avez reçu, dans laquelle vous avez persévéré, et par laquelle vous êtes sauvés. Pas juste le salut éternel, tout ce qui va avec, les délivrances, les guérisons, les restaurations, par lesquelles vous êtes sauvés. C'est ça, cet Évangile-là. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous aurez cru en vain. Ce soir, est-ce qu'on veut croire en vain ou est-ce qu'on veut recevoir pleinement tout ce que Dieu a déjà préparé d'avance pour nous? Tout ce qu'il nous promet que c'est pour nous autres. Ce soir, je le crois que Dieu, il veut faire un œuvre de guérison puis un œuvre de délivrance au milieu de nous. Puis il s'attend de voir votre foi. Avez-vous la foi de Marthe ou vous allez saisir les promesses que Jésus dit? Ton frère ressuscitera. Ou la promesse que Jésus dit, que veux-tu que je fasse? Puis là, il dit, que je recouvre la vue, qu'il te soit fait selon ta foi. Que veux-tu que je fasse? Que mes yeux soient, qu'ils soient faits selon ta foi. Puis là, il dit, que veux-tu que je fasse? Que je puisse être purifié, soit je le veux, soit peu. Qu'est-ce qu'on veut que Jésus fasse ce soir? Qui fait partie des promesses qui sont écrites, les promesses de l'Évangile, qui sont à nous autres. C'est les promesses de l'Évangile par lesquelles nous sommes sauvés. Puis nous sommes sauvés de nos maladies, de nos problèmes de notre vie, des délivrances qu'on a besoin à propos de ce que l'ennemi fait dans nos vies. Je répète la parole que Jésus a dit à Marthe la deuxième fois. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Dieu veut le faire ce soir, pendant que les musiciens vont s'avancer. Je sais qu'on a tous des problèmes, qu'on a tous des situations difficiles, qu'on a... Pensez à ce que vous avez vécu cette semaine, qu'est-ce qui vous a abattu, qu'est-ce qui vous a écrasé, qu'est-ce qui vous a démoli, qu'est-ce qui fait que vous faites que vous rentrez en rampant dans l'Église, qu'est-ce qui vous enlève votre joie, qui vous enlève votre paix, qui vous enlève les promesses. Pensez à ça, là, puis maintenant... Avancez en avant pour recevoir une délivrance là-dessus ou une guérison là-dessus. Puis Jésus nous le répète encore, ne vous ai-je pas dit que si vous croyez, vous verriez la gloire de Dieu. Prenez-le pour vous autres, c'est une promesse pour vous autres. Que si vous croyez, vous allez voir la gloire de Dieu. L'Évangile va être encore actif ce soir, on va recevoir selon notre foi. Pendant que les musiciens vont...
Jean, as-tu fait sortir?
Puis oui. S'il y en a parmi vous qui n'ont pas encore reçu le Jésus comme leur sauveur personnel, est-ce qu'il y en a parmi vous qui, dans leur vie, ils n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, qui n'ont pas encore reconnu que Jésus c'était leur sauveur, puis qu'ils sentent que là, c'est le temps de mettre leur vie en règle, c'est le temps de recevoir Jésus, c'est le temps de l'accepter comme sauveur personnel pour être sauvé, que vous voulez rentrer dans le plan de l'Évangile, que vous voulez rentrer dans la famille de Dieu? Pendant que tout le monde va s'avancer en avant, s'il y en a qui veulent recevoir Jésus, avancez sur ce côté-là, je vais prier pour vous. Mais par la suite, on va faire du ministère pour prier pour les besoins des autres qui vont s'avancer en avant. Ben, pensez à ce qui vous démolit, qu'est-ce qui vous détruit dans la semaine, qu'est-ce qui vous vole. Avancez en avant pour recevoir une délivrance là-dessus. Jésus est venu pour rendre libres les captifs. Il est venu pour délivrer les opprimés. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il veut faire un œuvre dans vos cœurs. Il est venu pour faire un œuvre aussi dans votre corps, pour vous guérir les yeux, vous guérir peu importe le membre que vous êtes malade. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Tu es grand, Seigneur. Tu es merveilleux. On veut recevoir, Seigneur, tout ce que tu as à nous donner ce soir. On veut recevoir parce que nous croyons, Seigneur, que c'est le message de l'Évangile. Nous croyons, Seigneur, que c'est ta parole qui l'enseigne. Ça fait partie de la base de l'Évangile qu'on a reçu, par lequel nous sommes sauvés. On veut recevoir tout ce que tu as pour nous, Seigneur, ce soir. Et que mes frères et sœurs puissent recevoir en ton nom. Avancez pour recevoir de la part du Seigneur. Alléluia. Loué et béni soit le nom de Jésus, le Seigneur.